Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Paris, mais 50 ans déjà, mai 68, quel héritage! En France, mai 68 a soufflé un vent de révolte et entraîné de nombreux changements de société. Quel souvenir gardez-vous de cette période? Aujourd'hui, qu'évoque encore mai 68 pour vous? Est-ce que c'était une époque qui vous inspire aujourd'hui, qui vous fait rêver? Qu'a-t-elle apporté dans le monde de 2018? Enfin, pour quelle évolution de société, y compris les droits des femmes, l'éducation, les personnes handicapées, la liberté d'expression? Est-ce que vous êtes prêt à descendre dans les rues aujourd'hui pour militer contre les injustices ou vos droits? Tout au long du mois de mai, nous vous invitons à des escapades audio. Retour dans l'histoire. Et ces pays qui, eux aussi, ont connu mai 68, de Dakar à Antananarivo, en passant par Bamako, des émissions sur mesure où les voix des sans-voix se font entendre. Mai 68, 50 ans après, avec RTL, RFI, Europe 1, des professeurs, des écrivains, des historiens et Ciné Franco, ainsi que les bandes sonores de l'Institut National des Archives. Pour participer à nos émissions, une seule adresse, potpourri@cut.fm. Mai 68, mai 2018, 50 ans de lutte et de liberté d'expression.
Ta vie a ras-le-bol, me filera des tripes. J'avale tes quartiers aux couleurs de pigeons. Intelligence blanche et grise religion. Paris, mais Paris.
Et oui, notre invité aujourd'hui s'appelle Julie Kim Baudry, l'une des artistes vedettes du trio des Chiclettes. Fait un comeback, son retour en force en lançant un premier album, Portrait 100%, tenez-vous bien, 100% R&B, en français, aux saveurs des années 1970. Un vieux rêve qui se concrétise finalement. Julie Kim Baudry, aujourd'hui, dès 12h30, à ne pas rater pour le lancement de son album sur CUT 89,5 FM Potpourri Show.
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le nord?
Les nouvelles de dernière heure. et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information, une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions qu'il faut demander et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes me rappellent à ton souvenir.
Écoutez la planète chanter.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.potpourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Bienvenue, bienvenue, bienvenue à Potpourri Show. Et aujourd'hui, l'ingénieur du son, DJ Devera, assisté de... Non, il n'y a personne. Production animation, Eric Adair sur www.cut.fm. Pourquoi la France est outrée suite aux propos du locataire de la Maison Blanche. La Maison Blanche qui est dans la tempête en ce moment. Qui a dit quoi cette semaine? Festival de Cannes 2018, tapis rouge s'il vous plaît pour les vedettes. Et oui, madame, monsieur, aujourd'hui, un menu du jour, en ce dimanche 6 mai 2018, un peu spécial. Nous saluons tous nos amis internautes qui nous envoient des messages de collaboration, de participation, d'intérêt, des coups de cœur, des coups de gueule aussi, en provenance de Brest, de Rennes, de Toulouse, de Amsterdam. Nous avons notre amie qui est actuellement en voyage, Lucie Dufaux, à qui nous disons « Welcome ». Back, c'est pour quand ce voyage? Ça fait 2 mois hein, déjà qu'elle est en voyage. La chanceuse de l'île Maurice, l'île de la Réunion, Haïti, Port-au-Prince, Trois-Rivières, hein, Québec, oui, Québec, Trois-Rivières, et La ville de Québec aussi, Montréal, bonjour, bien le bonjour, Washington, tenez-vous bien, il y a des gens qui nous écoutent à Washington, le Vietnam, ah oui, Hanoï, bonjour. Il y a des gens qui nous envoient aussi des messages du Japon, du Pakistan, de l'Inde. Enfin, merci d'être là et qui sait, vous serez peut-être de ce voyage extraordinaire que vous propose CUT et les partenaires pour, tenez-vous bien, surprise, je vous laisse. Je vous fais languir jusqu'à la fin de l'émission, mais un voyage est prévu d'ici au mois de juillet grâce à des partenaires. Si vous devenez membre, bien sûr, de notre émission, on fera un tirage au sort pour vous. Du 6 au 27 mai, Popourri Show vous fait revivre, madame, monsieur, les nuits des barricades du mois de mai 1968. Quel âge aviez-vous en 68? Et oui, cet événement, ces événements qui ont bouleversé la société française, pas seulement en France, il y avait aussi des événements en Afrique, Dakar, Madagascar, Bamako. Et que nous reste-t-il justement de mai 68? Quel héritage et quelles sont les conséquences sur la société, notamment en matière de mœurs? Ce n'était pas seulement en France. D'est en ouest, ce sont les foyers de contestation estudiantins qui génèrent les événements dans le monde en 1968. Parmi nos invités aujourd'hui, des professeurs, des historiens, dans le magazine 7 milliards de voisins de Radio France Internationale, un magazine très 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 écouté en Europe surtout et en Afrique, présenté par notre amie collaboratrice aujourd'hui, Emmanuelle Bastide. Bonjour et bienvenue à bord. Mai 68, quelles sont ces chansons qui captent l'air du temps? Par aimé, que vous venez d'entendre de Claude Nougaro, chanson thème de ce mois. Et puis les prévisions et nos coups de cœur de nos partenaires, entre autres de Ciné Franco, à qui nous disons bien le bonjour, à Madame Ciné Franco, Marceline, 26e édition du Festival des films juifs, qui se déroule jusqu'au 13 mai prochain. Et Marcel vous invite à aller voir Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos le mercredi 9 mai prochain au Cinéplex Cinéma Empress Walk, Cinéma 5, à 20h, mercredi 9 mai, en français s'il vous plaît. Et le dimanche 13 mai, dimanche prochain, La promesse de l'aube d'Éric Barbier, 17h, très beau film, au Hot Dogs Ted Rogers. Et en dernière heure, j'apprends... on m'apprend qu'un représentant du groupement de presse spécialisé de Paris est à la recherche d'un auditeur qui n'a toujours pas payé son abonnement. Et voilà une question embarrassante pour une épouse surprise et choquée peut-être par ce pot aux roses. Nous allons découvrir tout ça tout à l'heure. Et puis nous avons un voyage pour deux, comme je vous l'ai annoncé, pour le Costa Rica, si bien sûr vous devenez membre à la radio, la seule et l'unique émission en langue française, CIUT 89.5 FM, la radio de l'Université de Toronto. Faites vite et nous ferons un grand tirage après notre campagne d'adhésion au mois de juin, qui est retardée un peu à cause de rénovation. Hein. Vous voyez un peu là, nous sommes dans la poussière ici à CIUT FM. Ne venez pas nous voir. Et oui, merci de votre fidélité et appui à nos opérations médiatiques. Soyez parmi nos membres ou partenaires, collaborateurs. Écrivez-nous, madame, monsieur. Voici notre adresse, popourri@cut.fm. Et comme je vous l'ai annoncé, à ne pas rater le lancement d'album de notre amie, la Chiclette, une des Chiclettes, qui fait bande à part. Et oui, elle sera des nôtres à 12h30. Julie Kim Baudry qui nous attend quelque part à Toronto. Oui, elle est très torontoise. Popourri Show, 30 ans déjà, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Écoutez, ça y est, ça change maintenant, nous sommes derrière. Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se remrouillent. Aïe, la vache, pousse-toi. Dans la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant les manifestants.
Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable. Mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait.
Merci.
Qui avait la figure en sang.
Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain.
Ils sont nombreux dans le studio aujourd'hui. Les buzz de nos médias partenaires. Aujourd'hui, les bandes sonores de l'INA en direct avec Radio France Internationale et nos médias partenaires. Une émission un peu spéciale dans le cadre de commémoration des événements de mai 1968 tout au long de cette émission. Et du journal L'Express de Toronto, alors qu'un projet d'une nouvelle université pour les francophones de l'Ontario s'annonce pour 2020, eh bien, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones tire sur la sonnette d'alarme sur, tenez-vous bien, une pénurie d'enseignants francophones. Alors que les organismes se positionnent sur la marche à suivre, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones tiendra le 9 mai prochain une première rencontre avec le ministère pour lui offrir la collaboration des 12 membres de la table nationale sur l'éducation. Un vrai problème, hein? Où trouver les enseignants francophones? Denrées rares, madame, monsieur. Et oui, l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne se place également sur la ligne de front. En septembre passé, vous vous souvenez, en Nouvelle-Écosse, par exemple, il manquait 30 professeurs dans les programmes d'immersion. En Colombie-Britannique, la pénurie est particulièrement importante. Un enseignant sur 5 quitte la profession. Quel avenir pour ce nouveau projet universitaire francophone qui va s'installer à Toronto? Est-ce qu'on va trouver des professeurs si facilement que cela? Un bout de campagne en plein Toronto, un article à lire absolument dans le dernier numéro du journal Express de Toronto, ça m'a fait rire. Depuis 40 ans, la ferme de Riverdale dans le quartier de Cabbage Town, au cœur du centre-ville de Toronto, vous offre un quartier propice à l'évasion champêtre. Un trou de verdure où pillaillent les poules, gambadant les chèvres, les chevaux, vaches et cochons, au beau milieu de Toronto. C'est à voir. Et oui, cinéma, cinéma, Cannes 2018, virage sage, nouveau visage, du 8 au 19 mai, à ne pas rater l'incontournable grand-messe du cinéma. Un savant cocktail de générations d'artistes impliqués dans les crises sociales, d'auteurs, interprètes, d'œuvres, illustrant les thèmes les plus variés, transgression, race, tradition, suspense, science-fiction, arts martiaux. On en parle lors de nos prochaines émissions grâce à RFI, qui sera bien sûr en direct de Cannes. De hashtag ONFR. Il ne reste plus que quelques jours avant le déclenchement de la campagne électorale en Ontario et triste constatation. Eh oui, le français laisse à désirer sur certaines plateformes des partis dans la course. Rien ne m'étonne. Mais non, rien ne m'étonne. Toujours hashtag ONFR qui a mené une enquête auprès des sites web et médias sociaux des 103 députés présents à Queen's Park. C'est le Parlement ontarien, Queen's Park. Le Parti progressiste conservateur de l'Ontario a retiré la portion francophone de son site internet. Pourquoi? Quelques jours après l'élection de Doug Ford à la tête de la formation politique, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario a réagi fortement à cette décision à la suite des questions formulées par hashtag ONFR. Le Parti conservateur se défend. Devons-nous prendre cette omission avec des pincettes, madame, monsieur? En tant que francophone, devons-nous faire confiance au Parti conservateur et Doug Ford sur la question de la francophonie? Déjà, les partis se torpillent. Environnement, enjeux francophones et propositions pour le Nord sont au menu de la table ronde. Hashtag ONFR à suivre. Belle page de promotion des nouvelles en Ontario français. Il est aussi question d'une nouvelle campagne choc contre la violence conjugale faite aux femmes. Très bien. Et selon Radio-Canada, nous venons d'apprendre qu'une des candidates du Parti conservateur, candidat vedette du parti, a été éjectée de son parti pour avoir tenu des propos homophobes. Tania Granick-Allen, premier faux pas du Parti conservateur. Et on me dit qu'il y en a d'autres faux pas à venir. C'est à suivre. Toujours de hashtag ONFR, le succès ne désemplit pas pour les groupes de discussion franco-ontariens sur Facebook. lancé le 26 avril dernier, ça se passe en français à Ottawa, a déjà trouvé sa vitesse de croisière. En quelques jours, le nouveau forum, sous l'impulsion de l'Association des communautés francophones d'Ottawa, a engrangé plus de 300 membres. Voilà une très belle initiative à suivre. Et puis du gouvernement de l'Ontario, une annonce qui fait plaisir aux aînés, du bureau de Mme Catherine Wynne, qui nous a envoyé un message, qui nous dit 5000 nouveaux lits de soins de longue durée dans toute la province d'ici 2020. Et en compagnie de la ministre des Affaires francophones, Marie-France Lalonde, la première ministre Wynne, était cette semaine à Prescott et Russell, à Hawkesbury, dans l'est ontarien, pas loin d'Ottawa. Et c'est là où ils ont fait cette annonce. On annonce que l'Ontario aménagera 78 nouveaux lits de soins de longue durée pour les aînés francophones, ce qui fait partie de son engagement à aménager plus de 500 nouveaux lits pour les aînés francophones d'un bout à l'autre de la province. Et de Radio France Internationale, la fête à Macron a réuni plusieurs dizaines de milliers de participants hier samedi. C'était la fête, il faisait beau, alors discours, concerts, rassemblements, l'enjeu majeur de cette manifestation était la sécurité après le défilé mouvementé, vous vous souvenez, du 1er mai à Paris, mardi dernier, avec l'irruption de Black Blocs. Eh oui, beaucoup d'échauffourées, des arrestations et ils ont saccagé les McDo et des magasins. Après une semaine d'échanges tendus avec le président de la République française, bien sûr, et le Premier ministre, qui l'ont accusé d'avoir incité les violences du 1er mai par ses discours radicaux, le chef des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a bien insisté « Nous sommes un rassemblement joyeux et souriant à l'image du monde que nous voulons fonder. Nous sommes un rassemblement qui condamne la violence. » En Haïti, vendredi tôt le matin, un glissement de terrain est survenu à Carrefour Feuille. Plusieurs maisons ont été détruites et endommagées et des évaluations sont en cours. Et puis toujours en Haïti, la première journée du colloque intitulé « Colloque international corruption et transparence, mécanismes et enjeux » à l'université Quisqueya ravive les débats dans ce pays empreint de corruption. Abordant la question des politiques publiques, l'économiste Frédéric Gérald Chéry a vivement critiqué les politiques économiques, monétaires et budgétaires qui sont à ses yeux inadéquates et inefficaces. Comment se porte la démocratie dans certains États membres de la francophonie, madame, monsieur? Eh bien, après l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie qui ont suspendu leur coopération avec le Bénin, l'espace médiatique se réduit aujourd'hui encore un peu plus. Eh oui, le Conseil national de la communication du Bénin a décidé de suspendre pour 6 mois la diffusion de la BBC et de la Voix de l'Amérique. Eh oui, ce sont deux radios internationales qui diffusent des programmes en langue locale. Je vous rappelle que les radios locales, elles, restent très contrôlées par l'État. Peut-être qu'il est temps pour le Canada de revoir sa relation avec le Burundi. Et puis, les dossiers LGBT.com. En France, Moussa Camara, guinéen homosexuel, qui avait refusé d'embarquer dans un avion pour Conakry, a été reporté vendredi au 12 juin prochain. Dans le box, ce vendredi dernier, le 4 mai, en l'absence d'interprète en langue soussou, l'homme a déclaré dans un français hésitant, je cite, « J'ai trop peur pour rentrer dans mon pays ». Il affirme que son compagnon a été lynché à mort par sa famille en Guinée, qu'il a quitté pour fuir les persécutions contre les homosexuels. En Guinée, l'homosexualité est passible d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison. Et mon coup de gueule du jour, madame, monsieur, on connaît tous dans notre vie quelqu'un qui est expert dans tous les domaines, n'est-ce pas ? Qui a tout vécu, qui a tout expérimenté et qui connaît tout le monde. Eh bien, le locataire de la Maison Blanche, qui fait face à des accusations acerbes suite aux révélations chocs de certains médias, pour détourner l'attention Donald Trump a affirmé vendredi à la convention de la National Rifle Association, le puissant lobby américain pro-armes, que les attentats du 13 novembre 2015 à Paris auraient fait moins de morts si les victimes avaient été armées. La France a exprimé sa désapprobation aux propos et demande le respect de la mémoire des victimes. Plusieurs politiciens et Français sont montés au créneau cette semaine suite à l'annonce et aux propos tenus par Donald Trump. Avant cette réaction officielle, l'ex-président français François Hollande, qui était alors en fonction, avait vivement dénoncé de son côté les propos honteux et les simagrées obscènes de Donald Trump. Les propos honteux, simagrées obscènes de Donald Trump en disent long sur ce qu'il pense de la France et de ses valeurs, a estimé François Hollande. L'ancien chef de l'État, dans un communiqué, a fait réagir d'autres politiciens et plusieurs personnalités en France et dans le monde. L'amitié entre nos deux peuples, dit-il, ne sera pas entachée par l'irrespect et l'outrance. Toutes mes pensées vont aux victimes du 13 novembre. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre sous Hollande, qui a envoyé un petit tweet rapide, indécent et incompétent. Indignation et dégoût. Après les propos de Donald Trump sur les attentats du 13 novembre, solidarité avec les victimes et les Français choqués, la transgression, c'est l'irrespect, a également réagi sur Twitter Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur au moment des attentats. La Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs en France a dénoncé dans un tweet des propos d'une violence inouïe pour les victimes et appelé à la diplomatie française à réagir. Et l'ancien vice-président de l'association des victimes 13-11-15, Emmanuel Domenech, a de son côté interpellé directement Donald Trump sur Twitter en l'invitant en anglais dans un langage fort à aller se faire F avec une arme s'il le souhaite. Je demande à Madame Marceline de Cinéfranco à quand la fin de ce film d'horreur. Mr. the President, cut it out, please, now, with the French people. You are a dangerous man to America and to the world. Sur un autre registre, les éditions de la Musardine publient en ce mois de mai 2018 « Liberté, égalité, sexualité, révolution sexuelle en France, 1954 à 1986 ». Et à travers ce beau livre, à l'iconographie foisonnante, Marc Lemonnier explore les événements de 30 ans de combat et de libération sexuelle, où la littérature, le débat d'idées, le livre tiennent une place primordiale. La libération des mœurs a fait bien de remous dans les couples, surtout quand une épouse apprend par surprise que son mari est en retard dans les paiements pour régler son abonnement.
Allô ?
Oui, bonjour madame, je souhaiterais parler à monsieur...
Oui, mais il n'est pas là pour l'instant, monsieur est à son travail.
Ah, bon, parce que nous sommes le groupement des presses spécialisées à Paris.
Oui.
Et votre mari est abonné à un certain nombre de nos parutions. Oui. Et là, il a un peu de retard sur deux ou trois abonnements.
Ah bon ? Et quels abonnements ?
Écoutez, ce sont des revues spécialisées. Écoutez, je vous passe l'administrateur délégué. Hein.
Oui, d'accord.
Merci, oui. Allô ?
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil.
Oui.
Je suis administrateur du groupement des presses parisiennes libérées. Vous êtes madame ?
Oui, c'est ça, oui.
Eh bien madame, votre mari nous doit un mois d'abonnement sur Grossin Magazine.
Sur Grossin ?
Grossin.
Oui.
Oui, Grossin Magazine.
Oui.
Un mois d'abonnement sur Je bande en solitaire.
Hein ?
Et deux mois sur Homosexuel du Morbihan.
Pardon ?
Deux mois sur Homosexuel du Morbihan.
Et quand est-ce que... quel est le... Est-ce que vous pouvez me préciser à quelle date il s'est abonné à ce genre d'ouvrage ?
Depuis deux ans, il les reçoit en poste restante à la poste. Ce sont des revues qu'on trouve par correspondance, hein, pas dans les kiosques. Hein.
Justement, c'est pour ça que je suis vraiment très surprise de ce genre de...
C'est pas trop grave, hein, remarquez. Hein. Nous, on a l'habitude d'accorder des délais de règlement. Ouais.
Bon. Ce qui ferait quelle somme, s'il vous plaît?
Comment?
Ce qui ferait quelle somme?
Alors, Grossin Magazine, ça fait 42 francs. Je pends en solitaire, 64 francs. Et Homosexuel du Morbihan, 172 francs.
Oui.
Par contre, madame, nous avons une bonne nouvelle.
Oui.
Vous avez été photographiée par votre mari dans la série des photos cachées pour Je bande en solitaire.
Ah ? Comment ça ?
Il vous a parlé de ça ?
Ah, pas du tout, non.
Il a fait une...
Écoutez, c'est une... mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ?
Comment ?
Je comprends rien du tout à ce que vous me racontez.
Mais, madame, votre mari est abonné.
Bon, alors écoutez, c'est bien simple. Vous allez rater à 18h30, normalement il devrait être là. Bon. Parce que personnellement, je ne tiens pas du tout à continuer cette conversation.
Bon, alors...
ce n'est pas moi qui ai souscrit ces abonnements-là.
Je comprends. Hein? Non, mais c'était...
Le genre de revue me déplaît souverainement, vous vous en doutez bien.
Pourquoi ?
Oh, bah, je vous en prie quand même.
Écoutez, madame, on est embêtés.
C'est-à-dire ?
On ne s'attendait pas à ce que vous ne soyez pas au courant, voilà.
Bien sûr que non. C'était pas dans nos habitudes, ce genre de truc.
Je suis désolé, si vous n'étiez pas...
Non, je vous en prie, ça m'étonne pas, vous soyez désolé.
Bah, madame, vous n'étiez pas au courant.
Ah, bah, vous vous en doutez bien. Hein. Dans la plupart des cas, c'est certainement le cas. Bah, hein.
Madame, excusez-nous, ça...
Oui, je vous en prie. Donc, vous allez rappeler ce soir, à partir de 18h30.
Bon, pouvez-vous lui dire, quand même,
oui,
qu'il y a deux bonnes surprises, hein.
C'est-à-dire?
Bah, grâce à la photo qu'il a faite de vous.
Oui.
Donc, en photo cassée, hein.
Oui, bien sûr, pour oui, évidemment, ça je me doute bien.
Vous avez gagné quand même 2 mois d'abonnement à Je bande en duo, notre nouvelle revue.
Oui, et alors ?
Ensuite.
Oui, j'attends le nouveau problème.
Madame, nous n'avons pas pour l'habitude quand même d'appeler chez les gens.
Oh ben, c'est ce que vous venez de faire en tout cas.
Ben oui, parce que vous êtes en direct à la radio. C'est Europe 1 à l'appareil.
Oh, je vous en prie.
Ça va mieux ?
Êtes-vous un fournisseur de services ? Faites-vous partie de la communauté francophone ? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français ? Qu'est-ce que l'offre active en santé ? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo ? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez tous les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
CIUT 89.5, Toronto.
Et oui, Julie Kim sera des nôtres, madame, monsieur. L'une des artistes vedettes du trio des Chiclettes fait un retour en force en lançant son premier album dès 12h30 aujourd'hui à ne pas rater. Eh oui, qui est cette réalisatrice qui a eu confiance en elle ? Portrait, son premier album, un disque 100% R&B en français aux saveurs des années 1970. Un vieux rêve qui se réalise pour Julie Kim Baudry dès 12h30, aujourd'hui pour le lancement de son album Portrait.
Ce n'est pas un secret, la mode est de maître capricieux. Elle n'a rien de parfait, que des mensonges et des pièges dangereux. Faut se le dire, poids d'une femme ne se mesure pas en grains. Je veux m'épanouir, la plus belle fleur sera toujours celle de mon âme.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Mais Paris, mais Paris. Mais Paris,
Mai 68, 50 ans après, avec RTL, RFI, Europe 1, des professeurs, des écrivains, des historiens, Ciné Franco et les bandes sonores de l'Institut National des Archives. Une émission présentée à CIUT 89.5 FM et RFI.
Disperser les cendres de Bendite et chacun est rentré chez son automobile.
Cinquante ans de mai 68. Pour ou contre ? Le mouvement de mai 68 fête ses 50 ans alors que la contestation étudiante émerge dès le début de l'année 1968. Elle va se cristalliser à Nanterre le 22 mars 1968 avec l'occupation du campus de Nanterre. Et le mouvement étudiant va ensuite prendre de l'ampleur au fil des semaines et s'étendre à toutes les universités parisiennes, puis françaises, avant que les syndicats et les ouvriers rejoignent cette protestation. Au plus fort du mouvement, près de 7 millions de personnes feront grève, contre 2 millions après la victoire du Front populaire en 1936. Mais le pouvoir en place avec le général de Gaulle à l'Élysée et Georges Pompidou à Matignon va résister malgré les revendications des manifestants qui demandent leur départ. Mai 68 a aussi eu un impact sur la culture, les arts, le cinéma, le théâtre qui entre en révolution de mille manières dans le monde. Toutes les recherches éparses sont sublimées dans des instants. L'occupation de l'Odéon et le festival d'Avignon envahi traduisent une terrible impatience. Thomas Piketty, économiste reconnu, spécialiste des inégalités économiques, écrit dans le journal Le Monde « Faut-il brûler mai 68 ?» Selon lui, les détracteurs de mai 68 auraient contribué au triomphe de l'individualisme, voire de l'ultralibéralisme. En vérité, de telles affirmations ne résistent pas à l'examen. Le mouvement de mai 68 a, au contraire, été le coup d'envoi d'une période historique de très forte réduction des inégalités sociales en France, qui s'est ensuite essoufflée pour toute autre raison. La question est importante, car elle conditionne l'avenir. Tout au long du mois de mai, je vous invite à revivre les moments clés du mouvement de protestation de mai 68 en France, l'occupation de l'Université de Nanterre, marquant ainsi le début d'un mouvement de protestation qui a fait évoluer et qui marque encore la société française. Nous tenons à remercier RTL, RFI, Europe 1, les archives de l'Institut National des Archives à Paris et Ciné Franco. Retour historique avec les archives, justement, de l'Institut National de France.
Les revendications.
revendications les plus légitimes des étudiants ne nous masquent pas que leur problème est international. Les facultés sont fermées en Chine. Les étudiants se battent au Japon, se révoltent en Allemagne, en Italie, en Hollande et même de l'autre côté du rideau de fer. Nous ne sommes pas en face de besoins de réforme, mais en face d'une des crises les plus profondes que la civilisation ait connue.
Mai 1968, les étudiants français sont en colère et s'expriment violemment dans la rue. Ils affrontent les forces de l'ordre pour protester contre le modèle de société de l'époque. L'élément déclencheur date du 3 mai, avec la fermeture de l'université de Nanterre suite à une journée anti-impérialiste organisée par les étudiants. Pour protester contre cette fermeture, les étudiants occupent la cour de la Sorbonne. Ils sont 400. Parmi eux, un étudiant qui deviendra une icône de mai 68, Daniel Cohn-Bendit.
Parfait. Ici, nous occupons la Sorbonne. Politiquement, il faut exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle.
Une situation nouvelle qui va bouleverser la France. Des arrestations et des condamnations d'étudiants font monter la tension. Quelques jours plus tard, ils sont des milliers à manifester. La nuit du 10 mai, des jeunes montent des barricades. Jets de pavés, gaz lacrymogène, la bataille va durer plus de 4 heures et faire des centaines de blessés. Le lendemain, le Premier ministre Georges Pompidou intervient.
J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi. Les cours reprenant à la diligence du recteur et des doyens. À partir de lundi également, la cour d'appel pourra, conformément à la loi, statuer sur les demandes de libération des étudiants condamnés.
La tension redescend, mais pas pour longtemps. Très vite, le mouvement étudiant s'étend aux ouvriers. La contestation devient alors une crise politique et sociale. Les grèves vont paralyser la France. 10 millions de Français s'arrêtent de travailler. De leur côté, le général de Gaulle et son gouvernement sont dépassés par les événements. Le pays ne se rend pas alors compte qu'une véritable révolution est en marche.
Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Si je suis désavoué...
Ce que recherche de Gaulle, c'est à relégitimer son pouvoir.
Je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions.
La branche a cru dompter ses feuilles, mais l'arbre éclate de colère. Ce soir que montent les clameurs, le vent a des souffles nouveaux au royaume de France. Le peintre est monté sur les pierres, on l'a jeté par la frontière. Je crois qu'il s'appelait Julio. Tout le monde ne peut pas s'appeler Pablo au royaume de France. Et le sang des gars de Nanterre a fait l'amour avec la terre et fait fleurir les oripeaux. Le sang et couleurs du drapeau au royaume de France. Et plus on viole la Sorbonne, plus Sochaux ressemble à Charonne, plus Beaujon ressemble à Dachau, et moins nous courberons le dos au royaume de France.
Mai par mai, 50 ans déjà, mai 68, quel héritage. L'année 1968 marque un tournant dans le monde entier. 1968, c'est d'abord les 60s. La décennie est mûre pour le changement. La crise de Cuba a donné des sueurs froides au monde entier en 1962. John Fitzgerald Kennedy a été assassiné en 1963 et les émeutes de Watts ont effrayé l'Amérique puritaine en 1965. L'époque bascule de partout avec des fronts multiples. Les États-Unis s'embourbent dans la guerre du Vietnam et la guerre des Six Jours ébranle le Proche-Orient en juin 1967. C'est aussi l'essor du rock and roll et des mouvements hippies. Autre temps, autre mœurs, les jeunes Anglais troquent le traditionnel tea time pour le LSD. Eh oui, chante avec les Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Eh oui, San Francisco connaît aussi en 1967 un étrange été. Le Summer of Love, avec plus de 100 000 étudiants, artistes, beatniks et autres journalistes, envahit le quartier de Haight-Ashbury, l'invasion des enfants fleurs, titre à l'époque le San Francisco Chronicle, à grand refond de fripes polychrome et de psychotropes en tout genre. Le printemps 68 cristallise ensuite des tensions des 60s, deux directions, deux tendances durables travaillent les équilibres mondiaux. Mai 1968 est la libération des mœurs, libération de la parole, des corps, émancipation des femmes. Les événements de 68 et la décennie qui a suivi ont été porteurs d'une véritable révolution des mœurs toujours à l'œuvre aujourd'hui. On le voit, on le sait, dire que la révolution sexuelle et la libération des mœurs datent de mai 68 en France serait exagéré. Pour comprendre mai 68, il faut marier trois perspectives. La première délimite les 8 semaines d'événements spectaculaires, mai et juin 1968. La deuxième, plus sociologique, couvre une douzaine d'années et replace mai 68 dans le continuum des années 60, comme l'épicentre d'une grande mutation culturelle et sociale. Enfin, la troisième met l'accent sur le contexte international politique et culturel très particulier des 60s, où le fond de l'air est rouge, selon le titre du film, en 1977, du cinéaste 68 Arts de Chris Marker. Alors que le pays s'est modernisé, il reste au niveau des mœurs profondément arriéré. Interdit des relations sexuelles avant le mariage, filles enceintes répudiées par leur famille, renvoyées par leurs employeurs, la mixité est absente de la plupart des établissements scolaires, la contraception en est qu'à ses balbutiements, car c'est aussi à travers les corps que se manifeste la contre-culture qui signale, selon l'historienne Florent Rochefort, la transgression est le mot d'ordre de cette culture jeune qui apparaît identifiée par le sociologue Edgar Morin. Si la société de consommation récupère cette inventivité et cette marginalité dont la presse, le cinéma, la mode se font l'écho, c'est en fait toute une discipline des corps qui est alors contestée. Michel Foucault en montrera dans son film « Surveiller et punir » sorti en 1975, la présence centrale dans le fonctionnement des sociétés bourgeoises, de l'école, de la famille, de l'usine, des prisons. Un ensemble de mutations d'ordre socioculturel est en marche et tous les domaines de la société sont touchés. Dans ces évolutions, les événements de mai 68 en France ont joué le rôle de puissants catalyseurs en faisant sauter les couvercles d'un puritanisme, d'une France avec un ordre moral dépassé. Mai 68, des voix féminines s'y font entendre dans une intensité particulière. Retour sur les événements de mai 68 et leurs conséquences sur la société, notamment en matière de mœurs. Témoignages de participants, participantes de l'époque, Reportage de l'Institut national de l'audiovisuel.
Alors on va voir la réaction du général de Gaulle et du gouvernement à travers Jean-Paul Ligier dans quelques instants, mais j'aimerais vous montrer combien les mœurs ont changé. Donc c'est en cela que mai 68 a réussi en quelque sorte. On va le vérifier à travers deux témoignages. Le premier de l'une des premières féministes avant même le MLF et le second d'un couple séduit en 68 comme beaucoup de jeunes par cette fameuse vie en communauté. Depuis, il porte un regard, on va dire, un petit peu distancié sur tout cela. Reportage de Gérard Griesbeck avec Jean-Jacques Le Garec.
Changer la vie. Le souhait de Rimbaud a été mis en pratique dès l'occupation de la Sorbonne par les étudiants. Pas un lieu sans débat, pas de sujet tabou. Le vertige du tout est possible.
Pendant qu'on était à la Sorbonne, on s'apercevait qu'il n'y avait rien sur les femmes. Alors on a commencé à placarder des slogans. Ensuite on est monté au premier étage où on réservait les salles. Et là on a dit, ben, y a un petit problème, on ne parle pas des femmes. Ah c'est vrai, on ne parle pas des femmes. Alors on va faire un meeting, un débat. Vous prenez l'amphi des cartes pour demain. Et vous nous organisez ça. Et le lendemain, à 20h, on attendait. Et on pensait qu'il n'y aurait personne. Quand on a vu peu à peu l'amphi se remplir, tellement qu'on refusait les gens, on était en bas, c'était un amphi comme ça, j'ai ressenti une des plus belles émotions de ma vie. C'était enfin les barrières brisées, la parole qui circulait, on se souriait. Bon, c'est peut-être des moments comme ça de grâce dans l'histoire, mais celui-là, il a vraiment existé.
Ce moment de grâce, Marie-Vonne et Michel ont voulu le prolonger en vivant en communauté. C'était après mai 68 en Lozère.
Ça, c'est nos premières plantations, parce qu'évidemment, on savait tout juste comment pousser les haricots verts.
On supposait qu'à la campagne, les gens de la campagne étaient plus près de la nature, donc ils étaient plus près d'une vérité. Et ça, ça a été très fort. J'ai envie de dire pas très longtemps, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ne possédaient pas plus la vérité que nous.
Il y avait cette espèce d'insouciance, comme on pensait pas avoir de boulot, on s'en foutait d'avoir du boulot ou pas, c'était le monde nous appartenait. Si vous ne roulez pas les gros bras, si vous n'êtes pas macho, que vous ne picolez pas, que vous n'avez pas une grosse voiture, des nanas, vous n'en faites pas. Et après, quand il y a eu 68, il y a eu une espèce de libération, avec le mouvement féministe qui commençait, les filles commençaient à décider elles-mêmes, on pouvait avec des filles sans être comme ça, le gros macho, bête, et ça, il y a eu aussi une explosion. On baignait dans une notion de plaisir, il y avait cette notion de plaisir.
D'avoir accès à notre désir.
On était mu par la recherche du plaisir.
On n'était plus dans le « il faut des conventions sociales hein. ». Nos parents disaient tout le temps « il faut pas faire ceci à cause des voisins,
il faut pas faire cela à cause des voisins ».
Et c'est vrai qu'il y a une explosion à ce niveau-là, en 68. Et c'était la démarche « on va être bien ensemble ».
Oui, c'est ça.
C'était ça, c'est pas on va être bien tous ensemble. Né par aimé, 50 ans déjà, en France, mai 68 a soufflé un vent de révolte et entraîné de nombreux changements de société. Dans un instant, la contestation en chantant. Mai 68.
La branche a cru dompter ses feuilles, mais l'arbre éclate de colère. Ce soir que montent les clameurs, le vent a des souffles nouveaux au royaume de France.
Dépasser les hiérarchies, les clivages entre les arts plastiques, la musique, le cinéma. Mai 68 a entraîné une nouvelle approche de la création artistique dont Beaubourg est le symbole. Les événements ont marqué un changement de la pratique artistique, mais le décloisonnement est dans l'esprit des années 60. Et des expériences avaient lieu avant 68 au Centre américain à Paris. La chanson thème de notre émission, Mai Paris Mai, chanson interprétée par Claude Nougaro, le regretté Claude Nougaro, un de mes poètes, de mes chanteurs préférés quand j'étais jeune, plus jeune. Il était toulousain, mais vivait à Paris, rue Junot à Montmartre, dans une maison qu'il vendra après s'être fait remercier par son producteur et avant de partir pour New York, où sa carrière repartira avec son album Nouga York. Eh oui, Claude Nougaro, ancien légionnaire, n'était pas un auteur engagé, mais fut suffisamment impressionné par Mai 68 pour faire cette chanson étonnante, à la fois jazzy et libertaire. Ils sont peu nombreux à oser composer sur l'actualité, peu à s'engager, encore moins nombreux à obtenir le succès avec des chansons d'eux-mêmes. Ces événements en sont un bon exemple. C'est la marque de la légende. Lorsqu'éclate la révolte, le mois de mai s'annonce radieux. Les haut-parleurs diffusent la bande son d'une époque anodine, Déshabillez-moi de Juliette Gréco, Comment te dire adieu de Françoise Hardy, Riquita jolie fleur de Java de Georgette Aplana, D'aventure en aventure de Serge Lama ou encore La cavalerie de Julien Clerc. Quoique, le 9 mai 1968, on allait encore au lycée avec une cravate. Lorsque tout éclate, se souvient Patrick Winzel, journaliste spécialisé dans la chanson française, une précipitation qui ne laisse guère le temps aux artistes de réagir.
Certaines chansons, je prends par exemple Ma France, qui est une chanson partisane, qui est à l'encontre de tout ce que la bourgeoisie, depuis la révolution de 1789, a considéré comme la France en général.
Celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille. Ma France.
Je suis censuré. La diffusion de mes chansons est censurée dans toutes les chaînes de radio, sans parler de la télévision.
La chanson poétique, si vous voulez, doit se battre, sinon c'est pas la peine. Hein? La poésie doit être dans la rue, comme j'ai dit. C'est important parce que ça fait penser les gens, des fois qui n'ont pas le temps de penser, pas les moyens.
Alors, on garde son sang-froid ?
Et oui, mai 68, des chansons qui capent l'air du temps Et après les nouvelles de RFI, nous revenons avec nos invités de Radio France Internationale et Emmanuel Bastille, une collaboration spéciale, une émission réalisée cette semaine avec plusieurs professeurs de sociologie, politique à l'Université de Paris et tant d'autres encore. Et à ne pas rater, et puis bien sûr vers 12h30, nous vous invitons à goûter aux délices, les saveurs des années 1970, un album, tout nouveau album de notre invité Julie Kim Baudry qui sera des nôtres vers 12h30, l'album Portrait à ne pas rater. Je vous souhaite bonne écoute à notre émission, on vous retrouve après les grands titres de RFI.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
During the spring membership drive, we are giving away tickets to Lula World. This festival showcases superbly talented Latin, Brazilian, jazz, folk, and global artists. You won't want to miss your chance to win. So mark your calendars for June 4th to the 10th. For more details, visit www.ciut.fm.
CIUT 89.5, Toronto.
Michael Ponge.
Et à la une, la réponse de Paris à Donald Trump, la France indignée qui désapprouve les propos du président américain au sujet des attentats de novembre 2015 pour le locataire de la Maison Blanche. Il n'y aurait pas eu autant de morts si les Parisiens avaient été armés. Retournons aux urnes pour les Libanais, première législative en 9 ans et l'espoir pour les candidats de la société civile de tirer leur épingle du jeu. Et puis une autre élection ce dimanche, des municipales en Tunisie, on va s'y arrêter. Dans l'actualité également, fin de visite pour Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, alors qu'en France, la fête à Macron a mobilisé plusieurs dizaines de milliers de personnes. La France outrée, Kim Goodger, donc la dernière sortie de Donald Trump. Nous vous en parlions hier sur RFI.
Mais Paris. Mais Paris, mais Paris.
Milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, journée spéciale sur RFI mai 68. Nous allons, de notre côté, chez 7 milliards de voisins, nous intéresser 50 ans après mai 68 à ces mouvements qui ne concernent pas que la France. La résistance à ce que les militants appellent désormais les grands projets inutiles et imposés. Aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ligne de train à grande vitesse, autoroute, barrage, c'est toute une contestation assez large finalement autour de l'aménagement du territoire, non pas pour protéger des intérêts personnels d'habitants, mais pour défendre une vision politique de défense de l'environnement, de critique du capitalisme mondial, de fuite en avant avec toujours plus de croissance. Alors ces mouvements séduisent de plus en plus les jeunes. Sont-ils un effet miroir des jeunes de mai 68, des facs aux ZAD? Comment ont évolué les nouveaux militantismes? Sont-ils limités par les aspirations personnelles et l'individualisme contemporain? On va en discuter avec nos invités. Bonjour Isabelle Sommier.
Bonjour.
Vous êtes professeure de sociologie politique à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Vous avez notamment copublié « Changer le monde, changer sa vie » aux éditions Actes Sud, qui est un pavé sur les militantes et les militants des années 1968 en France. Anaïta Grisoni, bonjour.
Bonjour.
où vous êtes sociologue des mouvements sociaux et urbaniste rattaché à l'Université de Lyon, dans le laboratoire LUMR 5600 Environnement et Vie Société. Voilà, j'ai bien tout dit comme vous me l'aviez demandé. Vous avez publié De la contre-culture à la loi du marché au temps présent, et puis également vous êtes co-auteur d'un ouvrage collectif Résister aux grands projets inutiles et imposés de Notre-Dame-des-Landes à Bure, aux éditions textuelles. Et puis en fin d'émission, on se posera la question, que reste-t-il finalement de mai 68 dans l'école? Réponse de Gabriel Cohn-Bendit, le grand frère de Daniel Cohn-Bendit. Ils ont fait mai 68 ensemble, mais Gabi était déjà prof d'allemand au lycée de Saint-Nazaire. Fer de lance des nouvelles façons d'enseigner, de transmettre le savoir. Et il nous expliquera pourquoi, selon lui, les profs n'ont finalement jamais voulu vraiment renverser la table, malgré leurs engagements politiques.
L'atmosphère en puanti par les gardes lacrymogènes, les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas, ils ratissent vraiment à coups de matraque.
Attention, attention François, il y a un pavé.
Les policiers se sont retranchés derrière leur car. Ils se protègent avec leurs boucliers. Quelques boulons volent. Les étudiants maintenant essayent de renverser une 404, puis une de chevaux. Maintenant ce sont les policiers qui viennent de passer. À l'attaque, le front des étudiants a reculé. C'est une véritable bataille rangée. Les étudiants attaquent à coups de pavé et les policiers répliquent avec des grenades lacrymogènes. On ne peut plus respirer ici.
Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les portes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
Et voici les fusées, les premières fusées.
Paris
qui arrivent. Attention, attention. Les premières fusées tout près de nous.
Les bousons noirs sont à la vue, lance-pierre contre lacrymogène.
Il y a un barrage qui flambe. Les gens aux fenêtres essaient de toujours de jeter des seaux d'eau sur ces incendies.
La dernière barricade maintenant va être attaquée dans quelques temps. Les étudiants fuient en direction de la rue Claude Bernard. Les grenades lacrymogènes fusent déjà à la hauteur de cette rue Claude Bernard. Vous voyez que la progression des forces de police est importante et qu'ils ont maintenant pratiquement le terrain conquis.
Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans Dieu, sans maître, auto-gestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures, et nous n'aurons jamais sommeil.
En tête du cortège, ce sont ces individus, tous en noir.
Ils sont équipés, hein, ils sont tous habillés en noir, donc facilement identifiables, ils portent des lunettes.
Impressionnant groupe de quelques 1200 extrémistes, anarchistes, casseurs, ultra-violents. Cet après-midi, ces Black Blocs n'ont qu'un objectif, se battre. Des militants attaquent le McDonald's à coups de pavés, de cocktails Molotov, brisant les vitres. Quelques minutes plus tard, le restaurant est totalement saccagé.
De mai 68 au Black Blocs de mardi dernier, 1er mai, à Paris, Isabelle Saubier, qu'est-ce que ça vous inspire?
Bah, ce qui m'inspire d'abord, c'est la tonalité qui est très différente entre vos deux extraits, hein, parce que en 68, alors oui, il y a des boulons, attention, il y a un pavé, mais c'est presque un petit peu joyeux.
Il y a des projectiles, hein, dans les, voilà, deux cas. Hein.
Alors que le ton employé par la journaliste à propos du 1er mai, là, est très très sombre, très 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 inquiétant, quoi. Hein. Donc, à la fois, on voit bien la filiation, hein, puisque en 68, il y avait beaucoup de militants d'extrême gauche. Là, on a des militants d'ultra gauche. Hein, donc, il y a une filiation, il y a une rage, hein, qui est commune. Hein, mais bah, l'ambiance n'est pas du tout la même. Hein, en 68, on était en plein dans les 30 glorieuses. Là, on est dans une crise qui n'en finit pas. Hein, donc.
Alors on parle de Black Blocs comme si c'était un mouvement, ça n'est pas le cas en fait, c'est plus une tactique d'agressivité à un moment donné, mais ce n'est pas un mouvement en tant que tel.
Les Black Blocs, bah d'abord c'est une expression qui a été...
Avant parler des casseurs...
Alors, les Black Blocs, c'est une invention, enfin le terme, hein, est une invention de la police allemande, hein, qui a utilisé ce terme pour désigner justement ce que nous on appelait les casseurs, des jeunes habillés en noir et qui, dans le cadre de manifestations antinucléaires, dans un premier temps, ensuite altermondialistes, viennent et s'attaquent aux symboles du capitalisme et harcèlent la police. Ce sont des groupes affinitaires, hein, ce sont des militants pour beaucoup, hein, pas tous bien entendu, mais pour beaucoup ce sont des militants, hein, qui se rassemblent en petits groupes et qui ont effectivement ces stratégies d'attaque et de contestation violente, mais plutôt d'inspiration anarchisante, communiste, révolutionnaire, antifasciste.
Plutôt ultra-gauche, contrairement à ce que Jean-Luc Mélenchon a dit, leader de la France insoumise, où il a dénoncé les violences de groupes d'extrême droite. Alors c'est vrai qu'on a eu des effets Black Blocs lors des affrontements à l'université de Montpellier à la mi-avril, où c'était plutôt des mouvements d'extrême droite. En tout cas, c'est vrai qu'il y a cette volonté d'en découdre. Et pour vous, Anaïta Grisodi, qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors, moi, je n'ai pas la chance d'être spécialiste des Black Blocs. Je pense qu'il faut vraiment prendre toutes les précautions quand on parle de la sociologie de ces personnes, parce que tant qu'on n'a pas une enquête sous les yeux avec des gens qui parlent d'eux-mêmes, on ne sait pas quelle est leur présumée idéologie, quelles sont leurs manières de travailler ensemble, de se mettre ensemble.
Ce que je remarque, c'est qu'ils le sachent eux-mêmes, d'ailleurs.
Bah, certainement, je pense que les gens savent quand même ce qu'ils font. Mais ce qui me choque beaucoup, c'est l'identification... De casseurs, cette espèce de terme qu'on a en tête et qui évoque une violence effectivement très forte et qui fait souvent oublier peut-être d'autres types de violences qui sont pas catalogués comme telles. Il y a mille violences auxquelles on assiste chaque jour. Vous avez vous-même évoqué les événements de la mi-avril, c'est-à-dire pour le rappeler, la mi-avril à Montpellier, c'est quand même plusieurs professeurs d'université et chargés de TD et étudiants qui viennent tabasser des étudiants qui sont en assemblée générale dans un amphithéâtre alors que l'assemblée générale est autorisée.
Qui protestent contre la sélection à l'université.
Exactement. Étudiants qui protestent contre la sélection à l'université, sachant que c'est un processus qui est en cours depuis de nombreuses années, mais qui vient quand même s'ancrer et s'institutionnaliser dans la loi Auré. Donc il y a quand même une vraie volonté de la part des étudiants de défendre l'accès de tout le monde à l'université. Et ce type de violence, par exemple, n'est jamais catalogué comme une violence de casseurs, de Black Bloc. Enfin, donc ça dépend des termes qu'on emploie. Ça, il faut être très attentif à ça. Moi, ce terme casseur, donc c'est 200, 300, 1200 personnes peut-être qui viennent faire oublier déjà tous les autres types de violences auxquelles on est exposé tout le temps, mais surtout qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont dans la rue pour défendre la casse du service public. Donc là, on peut parler de casse aussi. Je trouve ça assez inquiétant, en fait.
Mais alors, évidemment, pour les événements du 1er mai, très largement condamnés par l'opinion publique, hein, les dégradations des vitrines des magasins, etc., et des biens publics, mais 50 ans après mai 68, quand on revient sur ce que pensent aujourd'hui les Français rétrospectivement de mai 68, ils sont 70% a estimé son impact finalement positif selon un récent sondage via Voice pour le journal Libération. Ça n'a pas toujours été le cas quand même, non Isabelle Sommier?
Non, bien sûr que non, mais...
Le pays s'est pacifié sur mai 68 aujourd'hui, vous diriez, la société française?
C'est intéressant parce que la société française s'est réconciliée avec 68, si je puis dire, puisque le bilan est, comme disait l'autre, globalement positif et même très positif. Hein. On est à 70-80% selon les sondages. Ce qui est intéressant également, c'est que cette opinion positive transcende les clivages partisans, puisque même les électeurs du Front National et de la droite juge que les événements ont eu un impact positif, hein, donc, alors que à l'inverse, mai 68, du point de vue médiatique et surtout politique, eh bien, on lui fait toujours un procès. Hein. Si aujourd'hui l'école va mal, c'est à cause de 68. Si on est dans des sociétés individualistes, c'est à cause de 68. Si la famille,
avec une forme d'américanisation de la société, par exemple, voilà. Hein, ça aussi, ça fait partie.
Donc ça, c'est assez intéressant parce que finalement, on voit que l'opinion publique ne suit pas cette instrumentalisation politique autour du procès de mai dont il faudrait liquider l'héritage, pour reprendre l'expression de Nicolas Sarkozy en 2007.
Finalement, les aspirations individuelles qui s'expriment lors de mai 68, aujourd'hui, se sont au fil des années transformées en société individualiste pour les détracteurs de mai 68.
L'individualisme, Tocqueville en parlait déjà, vous voyez, donc bon, c'est un peu... c'est pas 68 qui a inventé l'individualisme. 68, ça a été un mouvement de libération d'une société qui était quand même très fermée, hein, où toutes les institutions vont être bouleversées, hein, y compris d'ailleurs l'institution familiale, dans une aspiration, hein, à se libérer, à rencontrer l'autre, à exprimer une solidarité. Hein, c'est à la fois effectivement l'expression d'un jeu, hein, je veux libérer mon corps, encore que ça arrive quand même quelques années plus tard, hein, je refuse la sélection, etc. Mais aussi et surtout des rencontres avec d'autres personnes qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer. De Certeau le disait tout à fait justement, en 68 on a pris la parole comme on avait pris la Bastille en 1789. Et cet élan de parole, eh bien, a déferlé pendant toute la décennie ultérieure, et la société française est fondamentalement différente avant et après 68. Oui.
Si on compare justement les militants, les militantes de mai 68 par rapport à ces mouvements hétéroclites aujourd'hui et beaucoup de jeunes qui s'investissent dans des causes environnementales, là je fais référence à Notre-Dame-des-Landes qui a été un combat assez populaire et qui n'est pas terminé. Anaïta Grisonic, que représentent ces mouvements de contestation, de résistance aux grands projets inutiles et imposés? D'ailleurs je ne sais pas d'où vient l'expression « grand projet inutile et imposé ».
Alors, l'expression, pour répondre sur un point plus pratique, vient d'une réunion, d'une rencontre entre plusieurs mouvements, donc des mouvements espagnols, français et italiens, qui luttaient chacun un peu dans son coin contre des grands projets, donc ce qu'on appelle des grands projets d'aménagement, et plus particulièrement des projets d'infrastructures de transport ferroviaire ou routier. Donc en fait, c'est une rencontre qui a eu lieu en 2010, qui en fait s'est matérialisée par la rédaction d'une charte commune qui s'appelle la charte d'Hendaye. Et donc là, on en était encore à définir la lutte contre les grands projets inutiles. Donc il y avait seulement le rapport peut-être à la dette publique, au caractère utile dans des pays qui se considèrent
en tout cas... C'est pas seulement par rapport à des problèmes environnementaux, hein. C'est aussi par rapport à la dépense publique dans des pays qui sont déjà riches, structurés, équipés.
Et en dette publique importante, avec en fait en 2010, c'est deux ans après la crise des marchés, la crise financière, et il y a déjà les premiers plans d'austérité qui se mettent en place, notamment en Espagne et en Italie. Et en fait, ce que conteste effectivement les mouvements, c'est aussi, et c'est surtout dans le cas par exemple du Lyon-Turin, dont
de la ligne
Lyon-Turin, donc de la ligne ferroviaire TGV. Entre Lyon et Turin, sur laquelle j'ai travaillé plus précisément, c'est peut-être la principale aspect qui est reproché au projet, c'est-à-dire en fait de venir alourdir la dette publique dans un pays où on supprime de plus en plus le service public, donc les besoins fondamentaux comme l'éducation ou la santé.
Oui.
Donc effectivement, parmi ce que vous désignez comme des mouvements environnementaux, ce sont effectivement des mouvements qui s'intéressent de près à l'environnement, mais ce qu'ils voulaient, ces causes environnementales s'imbriquent et se mêlent profondément à des causes sociales, économiques et financières qui sont développées et qui en fait apportent un nouvel éclairage sur de la critique de la société. Et c'est ce qui est très intéressant.
C'est ce qui crée une cause politique.
Voilà, c'est ce qui crée une cause politique, c'est ce qui permet en fait de s'engager autour d'un territoire contre un projet. On va revenir sur le deuxième I de GP2I.
GP2I, donc grand projet inutile et imposé.
Donc le deuxième I arrive en 2011.
Imposé par l'État.
Alors, imposé par qui? C'est la question, effectivement, imposé par l'État, puisqu'il y a une volonté politique très marquée, mais imposée aussi par un modèle de société dans lequel les partenariats publics-privés, donc les partenariats entre les États, les territoires, au niveau institutionnel et les grandes entreprises se développent. Et c'est ce modèle économique qui est de plus en plus contesté. Alors après, on a différentes configurations. Il y a de nombreux types de projets. Il y a des projets d'aménagement qui ne se reconnaissent pas comme des projets inutiles à imposer. Donc c'est pas une question. La question c'est pas d'estampiller un label sur ces projets-là, mais c'est de comprendre comment, à partir d'une lutte territoriale, on crée un mouvement à échelle européenne, un mouvement social à échelle européenne, et surtout comment différentes thématiques peuvent se croiser pour une la critique un peu globale d'un modèle de société.
À l'époque de mai 68, on a l'impression tout de même que la révolte, bon, c'est d'abord une révolte étudiante, mais elle part, on n'est pas sur des logiques de territoire, même s'il y a eu des occupations d'usines. C'est une...
Alors, d'abord, je nuancerai un petit peu, hein, parce que 68, ça commence par une révolte étudiante, mais c'est le plus grand mouvement de grève que la France connaît au XXe siècle. On a quand même entre 7 et 10 millions de grévistes. Et les avancées majeures matérielles vont d'abord être pour les salariés, à la fois avec une augmentation du SMIC, du salaire minimum, et puis des avancées en termes de démocratie sociale, avec la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, alors que les syndicats étaient encore à la porte, en quelque sorte, de l'entreprise. Mais les thématiques, effectivement, de
sur la notion de territoire,
et puis de libération des mœurs, etc., ça, ça vient plus tard, effectivement. Moi, ça me, ce que vous me racontez, hein, et puis les zadistes, etc., moi, ça m'évoque plutôt, évidemment, la lutte emblématique décennale du Larzac, hein, puisque le Larzac, c'est une lutte qui dure toute la décennie 70, puisque ça va être abandonné par François Mitterrand, et qui va agréger à la fois des paysans, des antimilitaristes, va être un lieu d'expérimentation également, hein, d'autres modes de vie, hein, et à partir de là, effectivement, la question on veut vivre et travailler au pays va apparaître avec le revival également.
Pour rappeler l'origine de l'histoire du Larzac, hein, et faire la comparaison avec Notre-Dame-des-Landes.
Alors c'est une décision, hein, qui va être contestée, hein, d'extension d'un camp militaire, hein, et qui va d'abord passer évidemment par des expropriations des agriculteurs, hein, sur le plateau donc, du Larzac, hein, dans le sud de la France. Et ce sont d'abord ces agriculteurs expropriés qui vont résister, hein, et vont venir se greffer évidemment le mouvement antimilitariste qui est à ce moment-là en train de naître véritablement. Hein. Et puis ensuite il y aura le début des thématiques écologistes, le début également des thématiques régionalistes, hein, avec, vous avez la Bretagne, vous avez l'Occitanie, etc. Hein. Donc là, véritablement, la question de l'inscription territoriale, l'autonomie également, hein, avec la critique que vous évoquiez, hein, contre l'État jacobin qui veut tout contrôler, etc.
Mais avec cette même perspective, cette même aspiration à la décroissance aussi, ou pas ?
Non, la décroissance, c'est un terme qui arrive beaucoup plus tard, beaucoup plus tardivement, hein. Mais on a déjà en 68 la dénonciation de la société de consommation. Hein. Un des slogans de 68, c'est éteignez la télé, etc. Quoi. Donc, mais la décroissance, non, ça arrive vraiment plus tard.
Qui étaient les militants et les militantes de mai 68 par rapport à des mouvements hétéroclites aujourd'hui qui militent pour des causes différentes, hein. Est-ce qu'on peut, sociologiquement, qui était...
Ah bah, on peut, puisque nous avons réalisé cette enquête qui était une enquête inédite, hein, sur les militants ordinaires, hein, puisque de 68, des années 68, hein, au sens large, hein, pas de mai-juin, hein, des années 68, jusqu'à présent, au fil des commémorations, hein, un récit s'était imposé, hein, qu'il s'agissait d'étudiants du quartier latin, plutôt ce qu'on appelle des héritiers, hein, c'est-à-dire des enfants de bonne famille, hein, qui, une fois avoir fait leur poussée d'acné, en quelque sorte, hein, s'être rebellé, parce que, ma foi, c'est normal de se rebeller à 20 ans, eh bien, retrouvent leur place, des places confortables dans la société, hein, et ne sont plus engagés. Alors ça, ce récit a été forgé par certains ex eux-mêmes, hein, dont le frère, Daniel Cohn-Bendit, dont Serge Julie, etc. Et nous avons retrouvé des militants ordinaires. Et c'est pas du tout ça, en fait. Hein. Ce dont on se rend compte, hein, c'est que pour beaucoup, pour la majorité d'entre eux, ce sont des étudiants, pour beaucoup, effectivement, ils sont étudiants, qui accèdent pour la première fois à l'université.
Donc, c'est le début de la massification.
C'est le début
de
la massification. Hein, donc là aussi, c'est un parallèle avec
leurs aînés ont été beaucoup moins éduqués qu'eux-mêmes.
Ah, c'est pas qu'ils n'ont pas été beaucoup moins, c'est que eux sont les premiers de la famille à accéder à l'université. Hein. On estime à peu près à simplement 20%.
les fameux héritiers, hein, donc de bonnes familles, etc. Ce sont des individus qui viennent d'horizons divers, hein, beaucoup de femmes, hein, alors ça dépend des villes, puisqu'on a travaillé sur 5 villes, hein, et qui vont poursuivre leur engagement encore aujourd'hui, hein, puisque par exemple sur les 2 villes de l'Ouest, hein, sur lesquelles on a travaillé, Rennes et Nantes, on s'aperçoit qu'aujourd'hui encore, alors qu'on a affaire maintenant à des gens d'au moins 70 ans, on en a trouvé 17 dans les ZAD, par exemple, hein, à Notre-Dame-des-Landes.
Zone à défendre, hein, pour rappeler.
Oui, les zones à défendre, comme Notre-Dame-des-Landes. Hein, donc des gens qui restent donc très...
Ça, ce sont les vieux ZADistes.
C'est des vieux ZADistes, effectivement. Hein, et beaucoup aussi se sont réengagés au cours de la décennie de l'altermondialisme, hein, de la dénonciation de la mondialisation de type néolibéral et pour la solidarité avec les pays du Sud, hein, avec les mouvements humanitaires, ouais, également.
Et Anaïta Grisoni, pour les zadistes d'aujourd'hui, qui sont-ils dans le fond, à Notre-Dame-des-Landes et ailleurs?
Ah, ce serait terriblement malhonnête de prendre la parole pour les catégoriser, parce que je pense que c'est vraiment le service qu'on ne peut pas leur rendre, c'est ce qu'ils ne désirent pas. C'est-à-dire que justement, ce qui est intéressant dans ces mouvements, c'est qu'ils sont aussi héritiers des mouvements Occupy et des mouvements du 15 mai en Espagne. Et c'est des mouvements dans lesquels la démocratie horizontale permet à chacun de parler au nom de lui-même et de surtout pas être représenté, et encore moins par des sociologues. Du coup, qui sont-ils? Je pense qu'il y a beaucoup. Alors, je vais quand même essayer de vous dire quel type de personnes on peut retrouver. Effectivement, derrière l'illusion de la jeunesse de ces mouvements, finalement, il y a plusieurs générations qui se croisent. Il y a plusieurs types de catégories socioprofessionnelles qui se croisent. Donc, en termes de génération, effectivement, il y a ces personnes issues de mai 68 qui ont... J'ai envie de dire recycler, mais c'est pas le bon terme, qui ont renouvelé leurs engagements au fur et à mesure de l'avancée du monde et du néolibéralisme. Ensuite, il y a les paysans, en fait, les habitants du lieu, enfin les membres de la CIPA, donc de l'association qui lutte pour la sauvegarde des terres de Notre-Dame-des-Landes en tant que territoire agricole. Il faut savoir qu'une des problématiques les plus évoquées, c'est celle de la bétonisation des terres dans des territoires où il y a déjà une extension urbaine très importante. Donc en fait, le fait de garder la terre comme terrain agricole, c'est un enjeu écologique important. Et effectivement, il y a aussi ces habitants des alentours, des grandes villes alentours, qui vont être des visiteurs politisés, des visiteurs spontanés, des visiteurs éphémères, qui vont passer du temps et qui vont partager certaines des pratiques, certains moments de vie avec les zadistes. Et puis il y a les gens qui vivent sur la ZAD, tout simplement. Alors, ces gens qui vivent sur la ZAD, finalement, il y a beaucoup de jeunes que je désignerais comme précaires, c'est-à-dire de jeunes qui, ayant fait des études, savent qu'ils n'auront pas ou très difficilement accès au logement, à l'emploi, et qui, en fait, recréent une utopie concrète sur un territoire où c'est encore permis de rêver.
Eh bien, voilà, on a prononcé le grand mot utopie, en tout cas. Quelles sont les utopies d'aujourd'hui par rapport aux utopies de mai 68, 50 ans après mai 68? On en discute avec vous, Isabelle Sommier, Anaïta Grisoni.
Moi, comme un con, j'attends la suite. Moi, comme un con. Papa écrivait dans son lit des slogans révolutionnaires. Et puis papa s'est converti dans le slogan publicitaire. À lui les années 80, les femmes jusqu'au bout des seins. Le marketing et le fitness, papa était très chez vous.
Papa, papa, mai 68. Je remercie ma collègue Emmanuelle Bastide à Radio France Internationale avec ses invités Isabelle Sommier, professeure de sociologie politique à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Elle est co-auteure de Changer le monde, changer sa vie aux éditions Actes Sud. Je remercie Anaïta Grisoni, sociologue des mouvements sociaux et urbaniste rattachée à l'Université Lyon. auteur de la contre-culture à la loi du marché aux éditions Temps Présent. Une des co-auteurs de résister au grand projet inutile et imposé de Notre-Dame-des-Landes à Bure aux éditions textuelles. Une fois de plus, je vous rappelle que tout au long du mois de mai, nous allons revivre les temps forts de mai 68 grâce à tous nos partenaires de Radio France Internationale, TF1, et oui, Europe 1, RTL et Ciné Franco à Toronto. C'est un rendez-vous à ne pas rater.
Pourquoi donc la moitié de la planète s'active quand l'autre dort?
En principe, c'est les passagers, c'est eux qui mettent de l'ambiance.
Apportez-moi plutôt une glace.
Vivez au rythme du monde. Écoutez RFI.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
CUT 89.5 Toronto.
RFI, toute la diversité du monde.
Et oui, mesdames, messieurs, en attendant que notre invitée Julie Kim s'installe sur le canapé, je vous donne quelques... Ah oui, il y a des gens qui nous appellent, qui nous envoyaient des textos, merci beaucoup, merci, ils sont même très très loin. Hein. Vous avez du courage avec le décalage horaire, surtout les gens qui sont à Sydney en Australie. Et à Melbourne, vous pouvez nous capter, encore une fois, je vous rappelle, sur en direct, hein, sur votre mobile, partout dans le monde, www.cut.fm, www.cut.fm. Et si vous devenez membre à notre radio, à notre émission, vous courez la chance d'aller à Costa Rica. Nous remercions beaucoup le gouvernement de Costa Rica et aussi plusieurs partenaires de la région de Toronto et CIUT, bien sûr. Alors, vous pouvez commencer à envoyer vos dons. Tout au long du mois de juin, on va faire des sessions spéciales à la radio. On a besoin de vous, on compte sur vous, on est en pleine rénovation. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, hashtag Potpourri Show, ou encore, vous pouvez écouter l'émission où que vous soyez et quand vous le voulez, sur www.potpourrishow.com. Et oui, je vous rappelle encore une fois les rendez-vous de Ciné Franco, 26e édition du Festival des films juifs qui se déroule jusqu'au 13 mai prochain. Le prochain rendez-vous, c'est le 9 mai, c'est un mercredi. Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos, c'est à 20h au Cinéplex Cinéma Empress Walk, Cinéma 5. Très beau film à ne pas rater, et c'est en français, sous-titré en anglais. Dimanche le 13 mai, dimanche prochain, La promesse de l'aube d'Éric Barbier à 17h au Hot Dog Stead Rogers. Et encore une fois, je vous reviens tout à l'heure avec d'autres, nous avons reçu d'autres communiqués communautaires, entre autres la Maison d'Haïti du Grand Toronto vous informe, et c'est ouvert à tout le monde, hein, à cette semaine de patrimoine haïtien qui se tiendra cette année du 14 au 19 mai prochain, donc très prochainement, la semaine prochaine. Le thème retenu cette année, Haïti, 215 ans d'histoire, pionnier de la libération des peuples. On va bien sûr célébrer le drapeau haïtien. Et si cela vous intéresse, vous pouvez téléphoner à la Maison d'Haïti, 647-708-6248, et nous remercions Fougère Adolphe, son président, qui sera des nôtres. Et puis, bientôt à l'émission Autoportrait de Paris avec Chat. Eh oui, on l'attendait depuis très longtemps, c'est le dernier livre de Dany Laferrière. Qui ne connaît pas Dany Laferrière, il vit maintenant entre Paris et Québec. Premier livre d'un académicien. canadien, québécois. Voici qui nous donne un chef-d'œuvre d'école buissonnière, madame, monsieur. Il y a du texte, il y a des dessins. Très, très, très joli, un beau roman qui est très, très prisé hein, dans les critiques littéraires un peu partout dans le monde de la francophonie. Et puis, un autre livre aussi qui fait le buzz en ce moment dans le monde de la francophonie et surtout dans les mouvements féminins. Quand les femmes se racontent à une femme avec « Je ne serais pas arrivé là si », c'est le titre du livre. Eh bien, c'est publié aux éditions Grasset Fasquel Le Monde, écrit par la journaliste Annick Cogent, prix d'Albert Londres. Elle donne la parole aux femmes de Virginie Despentes à Françoise Héritier en passant par Asli Erdogan et Patti Smith, un recueil de 27 témoignages touchants, singuliers, à ne pas rater très prochainement à l'émission. Eh oui, je pense que notre invitée est déjà installée, je la vois, Julie Kim. Je vous présente, madame, monsieur, le buzz de son album qui s'intitule Portrait et en exclusivité sur CUT 89,5 FM, le titre du titre que j'aime particulièrement, c'est Hypnose. Écoutez, 100% R&B et en français aux saveurs exotiques, délicieux. Dans un instant, Julie Kim. J'aime bien. On n'est pas obligé d'être dans le monde R&B et d'être noir pour chanter comme elle, madame, monsieur. Quelle belle voix. Son premier album complet, un disque R&B en français aux saveurs des années 1970. Pourquoi? C'est un vieux rêve qui se concrétise, madame, monsieur. L'une des artistes vedettes du trio des Chiclettes a fait un tour de force en lançant son premier album. Mais qu'est-ce qui pousse à cette franco-ontarienne à se lancer en solo? Et oui, on applaudit madame, monsieur Julie Kim Baudry, notre invitée de la deuxième heure. Eh oui, installez-vous sur le canapé rouge. Bonjour Julie Kim, ça va?
Bonjour, oui, ça va très bien.
Alors, il y a des gens dans le studio, tout le monde vous applaudit, tout le monde cadencé avec ce titre que j'aime particulièrement, Hypnose.
Oui.
C'est joli, c'est beau.
Merci.
Alors, la question que tout le monde se pose, mais pourquoi avez-vous quitté les chiclettes?
Ah, mais je n'ai pas quitté les chiclettes. C'est ça la beauté des choses, c'est que on peut faire vraiment, les deux projets sont viables en même temps. Ouais. Donc, soit que vous venez voir Julie Kim en spectacle, en solo, ou avec les chiclettes, ou les deux, que j'encourage fortement les gens à venir voir les deux.
Ouais. Alors, c'est très, très beau, hein, parce que, je veux dire, en vous écoutant, moi, j'adore le R&B, mais là, d'entendre le R&B en français,
oui,
c'est très rare, ici à Toronto, en Amérique du Nord.
Oui, j'avoue que c'est très, très, très rare. Puis, moi, j'ai vu un artiste qui s'appelle Ben L'Oncle Soul. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je suis tout de suite devenue fan de Ben L'Oncle Soul, un artiste français. Puis, quand je l'ai rencontré, j'ai fait « Wow, c'est vraiment ce que je veux faire à saveur féminine. » Donc, il était vraiment une grande inspiration pour moi.
Oui. Alors, les gens se posent la question, mais qui est Julie Kim? Est-ce que tu peux nous poser... Alors, premièrement, il faut rappeler aux gens que vous êtes originaire de Beauharnois, au Québec,
ouais,
que je connais, mais que peut-être des gens de la région de Toronto ou encore qui nous écoutent à travers la planète, parce que vous savez, grâce à l'Internet aujourd'hui, il y a des gens qui vous écoutent à Port-au-Prince, actuellement,
oh, wow,
à Togo,
wow,
au Dakar, au Cameroun, à l'île Maurice, à Brest. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment à Brest, Plougastel,
wow,
Doualas, où j'aurais dû y être cette fin de semaine parce qu'il y avait une grande fête hier soir. Mais j'ai préféré rester ici pour vous accueillir parce que je pense que c'est important de promouvoir les artistes, les nouvelles voix qui s'émergent comme ça dans le monde culturel, car ce n'est pas si facile d'avoir toujours un coup de pouce, de faire de la promotion, et les gens méconnaissent encore nos auteurs, nos écrivains, nos chanteurs, nos chanteuses, nos artistes en Ontario français. Alors vous êtes né au Québec, qu'est-ce qui vous a intéressé, attiré pour venir vous installer à Toronto en Ontario?
Moi, j'ai fait toutes mes études en musique au Québec, au Cégep, je suis allée à l'université aussi. Puis, mais je chantais plus en anglais parce que, comme on sait, le style soul R&B, c'est beaucoup plus un style qu'on entend beaucoup plus en anglais. Donc, je chantais en anglais. Puis, j'ai décidé de déménager à Toronto pour vraiment poursuivre ma carrière en anglais.
C'était en 2001, hein? En 2001, vous avez enregistré 4 chansons en anglais intitulées « This Part of Me ».
Oui, j'avais fait un EP anglophone à ce moment-là. Puis finalement, je te dirais que 7 ans plus tard que je suis arrivée en Ontario, je gagne ma vie en chantant en français. Donc, c'est vraiment drôle que je suis partie pour chanter en anglais dans une province majoritairement francophone pour venir m'installer dans une province majoritairement anglophone. Puis finalement, chanter en français. Donc, c'est comme le vraiment un... On a tourné là, de 180 degrés.
Oui. Et il faut rappeler aux gens que quand on vit en tant que minorité dans une province anglophone, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, surtout les artistes engagés ou des gens dans d'autres domaines aussi, hein, qui veulent faire une marque, peut-être, marquer leur marque dans un domaine quelconque. Et donc, ça prend surtout beaucoup de courage, hein, sans doute.
Mais oui.
Parce que il faut dire aux gens, c'est plus facile de gagner sa vie en chantant en anglais parce que le public est là.
Oui, c'est difficile de se faire une place dans un marché francophone, dans une province majoritairement anglophone. Mais je dois dire qu'il y a quand même des avantages parce que il y a quand même, le gouvernement est là pour nous aider. On doit avoir un marché francophone, peu importe des services et des biens en français en Ontario. Donc c'est très 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 important. Puis on est très en demande. Les gens francophones, peu importe que ce soit au niveau des écoles, au niveau des arts, au niveau des services en français, les gens en veulent. Et s'il y en a pas, de moins en moins qu'il y en a, de moins en moins qu'on va faire la demande ou que... Donc, c'est important de demander ces services-là en français.
Rock Archambault de Franco Musique dit, et je cite, « La sonorité est différente de celle de son trio Les Chiclettes avec Hypnose, la chanson que nous venons d'entendre.
Ouais.
On retrouve plutôt une chanson pop-rock qui rappelle la chanson française des années 60 et même le groupe Niagara des années 80 que j'ai bien connu. Mm-hmm. C'est une chanson bien réalisée et très radiophonique. En effet, c'est pour cette raison que je l'ai choisie. Et parlez-nous un petit peu de l'héritage culturel, surtout de votre papa qui est musicien, je pense.
Oui, mon père est musicien, il est saxophoniste. Puis quand j'étais toute jeune, il y avait un groupe qui s'appelait les Teen Beats. Quand lui était tout jeune, donc il faisait beaucoup de musique des années du rock and roll des années 50, 60. Puis j'allais le voir en spectacle. J'écoutais beaucoup de cette musique-là aussi américaine, du rock and roll et d'inspiration aussi jusqu'à les années 70, le soul, des années 70, Bo Jackson 5, Michael Jackson, Stevie Wonder, Aretha Franklin. Donc c'est que ça que j'écoutais quand j'étais plus jeune, puis qui m'a amené dans le American Top 40. Donc wow. J'ai beaucoup écouté. C'est tout été mes inspirations de base, dans le fond.
Donc, vous avez une très bonne base. Votre maman, elle est aussi dans la musique, non?
Non. Disons qu'elle chante. Elle chante dans sa douche. mais elle chante très bien. Souvent, les gens, quand on dit ça, ils chantent dans leur douche. Ils chantent pas très, très bien. Puis ils se disent, ah, moi, je chante pour pas que les gens entendent. Mais donc, je pense que ça leur aurait peut-être été un rêve pour elle de faire quelque chose dans les arts. Mais dans ce temps-là, comme elle me raconte souvent, dans ce temps-là, les femmes étaient soit enseignantes ou soit des secrétaires quand elle était plus jeune. Puis elle était une femme entrepreneur. Elle a eu son restaurant pas mal de toute ma jeunesse. Elle a eu un restaurant. Donc, une businesswoman, une femme forte qui a fait carrière dans travailleur autonome. Mmh. Qui avait son emploi, puis ouais.
Julie Kim, madame, monsieur, qui lance son album Portrait à l'antenne avec nous aujourd'hui. Nous sommes très, très contents. Et il y a quelqu'un qui a été intéressé par votre talent. C'est quelqu'un qu'on passe régulièrement ici, ses chansons, mais aussi les thèmes de son voyage. Il nous transporte à travers ses pensées, très savoureux comme texte. Le slameur franco-ontarien d'origine togolaise, Yao.
Oui.
Que vous avez eu. Et c'est là que je trouve que Julie Kim n'est pas une artiste comme les autres, une artiste francophone comme les autres, parce que chez Julie Kim, il y a ce décloisonnement. Il y a cette aventure pour aller faire d'autres horizons au lieu de rester dans le carcan francophone, ontario-français ou du Québec. Vous n'avez pas froid aux yeux et c'est là que je vous félicite parce que vous êtes en train de faire un métissage culturel au niveau de la musique.
Wow! Ah, ben merci! Disons que je pense que je me tannerais de toujours faire la même chose. Peu importe que ce soit le fun, je vais aimer ça, c'est certain, mais j'aime vraiment ça, faire plein de choses différentes, de faire partie du projet. J'aime beaucoup aussi rassembler les gens ensemble. Des fois, je visite grandeur avec mettre plein de gens ensemble pour faire un projet. J'aime vraiment ça. Donc oui, quand j'ai performé plusieurs fois avec Yao pendant pratiquement 2 ans, je suis avec Yao. Puis les spectacles qu'on a fait, vraiment, je trippe à chaque fois. Même si on se le fait dire encore, hein, quand vous êtes sur scène ensemble, c'est vraiment quelque chose de magique. Puis j'aime toujours ça. Je suis comme Yao, je vais aller avec toi. Et, oui, mais c'est ton projet là. Oui, mais c'est pas grave. Moi, je peux faire plein de choses.
Julie Donc, Kim, nous allons présenter un autre titre de votre album avec votre permission, bien sûr, parce que j'aimerais aussi qu'on parle un peu de Cécile Doukengé, parce que c'est elle qui vous a aidé à réaliser ce projet, n'est-ce pas? Alors,
oui.
J'aimerais beaucoup qu'on écoute Ne t'arrête pas. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce titre, Ne t'arrête pas?
Ne t'arrête pas. En fait, moi, j'écris la musique. J'ai fait des partenariats avec des gens pour écrire les paroles des chansons, mais j'avais tous mes thèmes dont je voulais aborder pour l'album. Puis Ne t'arrête pas, c'est vraiment une chanson qui qu'il faut pas s'arrêter. Je veux dire, il y a toujours un moment dans la vie où est-ce qu'on doute. Où est-ce qu'on se dit, OK, est-ce que je lâche tout puis que je décide d'aller travailler ailleurs ou d'avoir un emploi normal, entre guillemets, là, comme de 9 à 5.
Parce que la vie d'un artiste n'est pas toujours rose, il faut bien admettre.
Non, c'est ça. Il y a des hauts, il y a des bas, puis quand on est dans les bas, on est comme, ah, est-ce que je suis vraiment fait possible? Là, on a toutes des grandes remises en question.
Ouais.
Puis finalement, il y a toujours cette petite voix dans nous qui se dit non, arrête pas. Puis on l'entend tout le temps. C'est tout le temps. À chaque fois qu'il y a des gens qui ont beaucoup de succès, que ce soit au niveau musical ou de leur business, c'est quoi la première chose qu'on doit avoir? Puis les gens disent la persévérance. Donc, il ne faut jamais arrêter, il faut toujours continuer, puis c'est ceux-là qui n'arrêtent pas, qui finissent par réussir. Donc, ça, c'est quelque chose que je me dis des fois en me regardant dans le miroir. Des fois, quand je conduis à tous les jours, je fais, OK, je suis découragée. Je fais, non, ne t'arrête pas. Il y en a qui vont pardonner, mais...
Oui, ne conduisez pas souvent en vous regardant dans le miroir, c'est dangereux.
Non, hein? Non, non!
Alors, Julie Kim, madame, monsieur... Et nous allons présenter, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas Julie Kim, on l'a vu plusieurs fois, on l'a apprécié, on les a applaudis, même de Wawa, dans le nord de l'Ontario, en France. Alors, de ce trio formidable des Chiclettes avec Nathalie Dindon et tant d'autres. Et donc, voilà, Julie Kim, madame, monsieur, avec une autre chanson que j'aime aussi, « Ne t'arrête pas », ici sur CUT 89,5 FM, de son album « Portrait ». C'est super, super. C'est une chanson très inspirante, je trouve, surtout pour vous, madame, monsieur. Des fois, on est un peu découragé. Ça, c'est une chanson qui vous mène au septième ciel.
Wow, merci.
Alors, Julie Kim, écoute, quand j'aime quelque chose, je le dis, ça, c'est nous, ici, à CIUT, 30 ans qu'on est là. On a ce privilège d'accompagner plusieurs artistes, des écrivains. Et quand c'est de la bonne qualité, de la bonne musique, eh ben, on met le paquet, comme on dit, à 100%. Et j'espère que cet album sera disponible pour le grand public, parce qu'il faut acheter. Il faut aider nos artistes, surtout les artistes qu'on aime.
Mais oui, c'est ça, l'album va être disponible sur toutes les plateformes numériques vendredi prochain, mm-hmm. le 11 mai. Il y a un lancement qui sera à Toronto, si les gens sont dans la région de Toronto, le 8 mai, mardi prochain, au Painted Lady, sur le coin de Dundas et Ossington. Là, je vais avoir vraiment tout un band avec moi, batterie, basse, clavier, guitare, trompette, saxophone, pour vraiment retrouver le son de l'album.
Et vous avez une bonne ambassadrice qu'on aime bien, c'est notre partenaire maintenant, Mathilde Houchignon, qui est au 36 000, elle nous écoute peut-être sur Internet à Ottawa. Alors, rapidement, parce que le temps presse, on pourrait passer des heures et des heures avec vous, ça fait tellement plaisir. Cécile Dou-Quinguet cette réalisatrice a eu confiance en vous. Elle a vu sans doute une perle rare chez vous.
Oh, je ne sais pas, il faudrait lui demander. Mais quand on s'est assis ensemble avec Cécile, vraiment, on lui expliquait, OK, c'est quoi ton projet, qu'est-ce que tu veux faire? Puis on parlait de direction, du ton qu'on voulait aller chercher, du style musical, tout ça.
partie, elle est comme, oh oui, ça m'intéresse, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Puis, c'est ça, elle a dit oui, je lui ai transmis mes chansons, puis elle a fait l'arrangement des chansons.
Mm-hmm. Alors, parlez-nous un peu d'elle, parce que pour les gens qui nous écoutent ne connaissent pas tellement Cécile, qui est-elle, où vit-elle?
Cécile Doukingé, c'est une guitariste. Chanteuse, auteur, compositrice, interprète, plus dans le style blues. Elle se promène partout dans le monde entier. En fait, elle était en Europe récemment, aux États-Unis, au Canada. Elle va vraiment partout, partout, partout. Et je conseille fortement à tout le monde d'aller la voir si elle est de passage dans votre coin. Puis, elle habite à Montréal, au Québec. Elle vient originalement ses parents sont de racine camerounaise et elle a grandi à New York. Mais maintenant elle est établie à Montréal et elle joue avec d'autres artistes, elle fait ses propres projets, elle a réalisé mon album, puis vraiment une musicienne extraordinaire, quelqu'un qui a une oreille et vraiment elle a un
bon coach aussi sans doute, hein?
Oui, vraiment. Des fois, puis elle est très moi ce qui m'a vraiment pas que je doutais de ça du tout, mais en studio c'est vraiment, elle a un grand cœur.
Oui, écoutez, le temps passe malheureusement, mais on sera là d'ailleurs. On va travailler avec vous pour faire le lancement de votre album En Onde. Quand vous l'aurez, on fera des tirages au sort, on fera des concours. Je vous rappelle, madame, monsieur, à ne pas rater un disque R&B en français, s'il vous plaît, aux saveurs des années 1970, à écouter absolument, qui s'intitule Portrait. Julie Kim Bautry, tous les gens de nos studios vous applaudissent et vous remercient d'avoir été là. Au revoir et à la prochaine, et bonne chance, hein, bonne chance. Et oui, madame, monsieur, voilà, quelle belle voix, Julie Kim. Merci beaucoup à Mathilde Houchet-Dion pour cette découverte. DJ Devera, merci d'avoir été la Radio France Internationale, les archives de l'INA et bien sûr tous nos invités de Radio France Internationale, le journal Express de Toronto, Europe 1. Et mai 68 revient la semaine prochaine à ne pas rater. Puis le dimanche 27 mai, il y aura une émission spéciale dans le cadre de mai 68 sur la littérature. On parlera aussi de cinéma le 20 mai avec Marcel Lynn. Et il y a aussi Cannes, édition 2018 qui s'en vient. Se passe tellement de choses. Si vous avez des idées, vous voulez collaborer à notre émission, eh ben soyez les nôtres. pot.pourri@ciut.fm popourri@ciut.fm. Je vous dis bon dimanche et bonne semaine. À dimanche prochain.
Se egitaj mwen ble venere, se yon kilti ki vreman bel fon, fel fleri pou Haiti. Mwen pa gen sa pou mranse, ilè pou peyi nou vanse, jenas peyi nou apriye, foutu peyi nou dezole.
Si nou ve avanse,
chak joun lè ve fok nou priye.
just